France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, une émission consacrée au Concile de Nicée I aujourd'hui, premier concile œcuménique de l'Église, concile dont nous célébrons les 1700 ans cette année, puisqu'il a eu lieu en 325 dans la ville de Nicée de Bithynie, sur convocation de l'empereur Constantin le Grand. Pour en parler, nous recevons Xavier Morales, professeur associé à l'Université catholique pontificale du Chili, un vrai connaisseur des œuvres d'Athanase d'Alexandrie et du Concile, évidemment, nous allons le voir. Athanase, auquel il a consacré sa thèse de doctorat, puis deux volumes qui contiennent des traductions de cet auteur dans la collection des sources chrétiennes. Et un troisième volume maintenant donc, qui porte le numéro 649 dans cette prestigieuse collection, paru cette année sous le titre « Athanase d'Alexandrie sur les décrets du Concile de Nicée ». Nous sommes donc au cœur de cette émission. Xavier Morales, bonjour. Commençons par quelques mots sur Athanase d'Alexandrie.
Athanase d'Alexandrie est sans aucun doute l'un des grands pères de l'Église, considéré comme le défenseur du Concile de Nicée. Athanase n'a pas participé de manière officielle au Concile, mais il était alors un jeune diacre et on peut dire qu'il a œuvré dans les coulisses du Concile. Il était présent, appuyant son évêque Alexandre, de sorte que 3 ans après le Concile, c'est lui qui a été élu pour remplacer Alexandre d'Alexandrie. Il devient ainsi l'évêque d'une des principales villes de l'Empire romain, Alexandrie en Égypte, ce qui lui permet de contrôler non seulement cette capitale intellectuelle de l'époque, mais aussi, par tradition, l'ensemble des évêchés de la région d'Égypte et de ce qui est aujourd'hui la Libye. C'est donc un évêque très puissant et on peut considérer que cette puissance est l'un des principaux arguments qui a occasionné des problèmes, on va dire, après son élection. Certaines envies, certaines luttes de pouvoir ont fait que tout au long de sa carrière, Athanase a dû défendre la légitimité de son élection. Il a fait plusieurs allers-retours sur le siège d'Alexandrie. Il a été exilé plusieurs fois pour des raisons politiques. Et tout au long de sa carrière, il a lié son sort en tant qu'évêque à la défense des décisions qui avaient été prises au Concile de Nicée en 325. En particulier, à partir de la fin des années 350, donc un quart de siècle après le Concile, Athanase va promouvoir l'exposé théologique de Nicée, dont nous allons parler dans un instant, comme une formule de ralliement théologique qui permet l'unité de toute l'Église. Il meurt en 373 sans voir réaliser son vœu d'unité autour du credo de Nicée, mais 10 ans plus tard, lors du second concile œcuménique, celui de 381, qui eut lieu à Constantinople, la formule de Nicée sera canonisée comme critère d'orthodoxie et elle est encore considérée aujourd'hui par toutes les confessions historiques comme le fondement de la foi de l'Église.
Merci beaucoup. Donc, ces quelques mots sur Athanase, un personnage très, très agité, j'allais dire, en tout cas tel qu'il reste dans l'histoire, mais fondamental pour la formation du dogme, on le voit. Et puis quelqu'un, quand on le lit, qui a des idées très tranchées. Hein, c'est toujours, on voit bien que sur le plan dogmatique, il savait très bien ce qu'il voulait et il essayait de l'obtenir de manière très claire, toujours. Alors, on va parler aussi un tout petit peu du Concile de Nicée, parce qu'évidemment, c'est une première dans l'histoire. Un empereur convoque un concile.
Exactement. Il faut peut-être dessiner le contexte. Nous sommes au début du IVe siècle et beaucoup de choses changent dans l'Empire romain. Premièrement, après une fin de IIIe siècle difficile où l'Empire a été divisé entre plusieurs empereurs, l'Empire a dû traverser une grave crise économique, Constantin le Grand, peu à peu, de manière militaire, réussit à unifier tout l'Empire sous son unique pouvoir. Il devient unique empereur, justement en 324, quelques mois avant le concile de Nicée. Donc premièrement, on a une unification géographique, donc on pourrait dire que c'est la première étape de ce que nous appelons aujourd'hui la globalisation. Désormais, ce qui se passe dans une région du monde affecte l'ensemble du monde, puisque toutes ces régions sont connectées les unes avec les autres à l'intérieur d'un unique Empire romain. La deuxième chose, c'est que Constantin va décider non seulement de donner au christianisme la liberté de culte, mais va lui-même adopter, d'une manière peut-être politique ou ambiguë, c'est difficile à dire, va adopter le dieu des chrétiens et favoriser de manière explicite le christianisme à l'intérieur de son empire. Du coup, les chrétiens se retrouvent dans une situation totalement inédite. Ils sont dans un empire qui les favorise et ils n'ont plus aucun problème pour communiquer les uns avec les autres. Ils forment désormais une communauté continue depuis l'Espagne jusqu'à la Perse. Et c'est sans doute cette nouvelle configuration qui va les confronter à ce qu'on devrait appeler une certaine pluralité ou une présence de divergence ou de dissension entre différentes traditions locales. Les évêques commencent à se réunir non plus au niveau régional, mais au niveau de tout l'Empire, et se rendent compte qu'il y a des manières différentes de transmettre le dépôt de la foi, et que ces différences génèrent des incompréhensions, voire des conflits. Et c'est exactement ce qui arrive et ce qui va précipiter la convocation de ce concile. Divers évêques de la partie orientale de l'Empire se rendent compte qu'ils ne sont pas d'accord, et ce désaccord est un désaccord qui scinde la région orientale de l'Empire en deux grands blocs. Or, la grande différence que fait la présence de l'empereur Constantin, c'est que désormais, un chrétien est capable de convoquer et réunir ces deux blocs qui s'affrontent. Et ce chrétien, c'est l'empereur qui en a en plus le pouvoir matériel. L'empereur va donc envoyer des lettres aux divers évêques de son empire. Il va mettre à leur disposition le transport, les lieux de résidence, l'alimentation, le logement. Et il va donc pouvoir, et il est le seul à pouvoir le faire, rassembler des évêques de tout l'Empire romain.
Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant au document d'Athanase. Je précise que vous avez fait paraître très récemment un autre livre que celui des sources chrétiennes dont nous parlons aujourd'hui, sur l'histoire du Concile. Donc, ça s'appelle 325, le grand et saint synode de Nicée, histoire du premier concile œcuménique, paru en 2025, donc, chez Le Condottiere. Et je reviens à notre discussion pour parler un peu de documents que vous traduisez dans le volume qui vient de paraître. Parce que évidemment, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils ne vont pas, et peut-être il n'y a jamais eu des actes pour le concile de Nicée. Donc les documents d'Athanase qui parlent de ça sont très précieux.
Exactement. Ce petit volume aux sources chrétiennes est un document historique, puisque comme vous venez de le dire, nous n'avons pas conservé de minutes ou d'actes du concile de Nicée, comme c'est le cas pour les autres grands conciles œcuméniques, où nous savons qui a pris la parole, ce que chacun a dit, qui étaient les présents, et nous avons les dates des différentes sessions. En ce qui concerne le concile de Nicée, nous n'avons pas d'actes, et effectivement, on peut se poser la question de savoir si vraiment il y a eu un travail de secrétariat, s'il y a eu des greffes, s'il y a eu une prise de notes, s'il y a eu une minute. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas eu de travail de secrétariat durant le concile, il n'y a donc pas d'acte. En revanche, ce que nous avons, c'est une série de lettres qui ont été adressées par le concile et par l'empereur, qu'il avait convoqué, aux églises pour les informer des décisions prises par le concile. Ces documents ont été rassemblés vers la fin du IVe siècle et mis en appendice d'une lettre qu'Athanase a rédigée dans les années 350 pour défendre les décisions qui avaient été prises lors du concile de Nicée. C'est le volume dont nous parlons, une lettre d'Athanase pour défendre les décisions du concile de Nicée et une série de documents annexés qui prouvent que effectivement Arius a été condamné pendant le concile, que l'empereur a continué à valider cette condamnation dans les années qui ont suivi et que par conséquent, il ne doit faire aucun doute que tout chrétien qui prône une interprétation théologique s'approche ou qui s'identifie avec celle que proposait Arius au début du IVe siècle, est un hérétique.
Merci beaucoup. Nous allons maintenant faire une pause. Elle est en musique, mais nous restons dans le credo, puisque c'est une mise en musique, en fait, du texte du credo. Quand on parle aujourd'hui du credo de Nicée, évidemment, nous entendons le credo de Nicée-Constantinople. Vous allez dire deux mots là-dessus tout à l'heure. Mais pour le moment, écoutons donc cet extrait du credo d'Arvo Pärt, compositeur estonien orthodoxe, par l'ensemble Vox Clamantis. Et après cet extrait du credo d'Arvo Pärt par l'ensemble Vox Clamantis, nous revenons à notre discussion avec Xavier Morales sur le livre qui vient de traduire, les textes qui vient de traduire d'Athanase d'Alexandrie, intitulé « Sur les décrets du Concile de Nicée » aux éditions des Sources chrétiennes. Et je voulais d'ores et déjà dire, Xavier Morales, que lorsque nous avons préparé cette émission, vous m'avez dit « c'est un document très important ». Celui qui est traduit dans le livre, parce qu'il est à la fois historique, historiographique et herméneutique. Alors, quelques explications là-dessus.
Il est historique au sens où nous avons là une mine de documents. Mais il est historiographique au sens où le disait une célèbre émission de Radio France intitulée « La fabrique de l'histoire ». L'histoire se fabrique. Le récit que nous faisons de l'histoire, la mémoire que nous en gardons, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Et la lettre d'Athanase part de cette conviction. C'est seulement parce que je raconte l'événement que je lui donne un sens. Par conséquent, celui qui raconte l'événement est maître de son sens. Athanase en est tout à fait conscient. Il sait que s'il veut que le Concile de Nicée conserve sa place dans la mémoire de l'Église, il doit en faire un récit qui inclut aussi une interprétation. De là, ce troisième terme que vous avez employé, le petit livre qui vient de paraître est aussi un document herméneutique, parce que tout récit est déjà une interprétation, une herméneutique, de l'événement qu'il raconte. Par conséquent, pour Athanase, le plus important, c'est de démontrer quelle est la signification des décisions qui ont été prises au Concile de Nicée, et en particulier, quelle est la signification de cet exposé de foi qui, dans les années qui ont suivi le Concile, a été plus ou moins oublié, sans doute parce qu'il posait des problèmes de compréhension.
Alors, est-ce que le texte d'Athanase nous aide à comprendre ce qui se passe? Et puis, je voulais aussi un mot sur la manière dont il voit ça par rapport à d'autres historiens. On sait que Eusèbe de Césarée, par exemple, très grande figure de l'époque, a participé, lui, au Concile. Et il a écrit une lettre aussi, après, à ses ouailles, pour expliquer quelle était sa position, etc. Alors, est-ce qu'il y a des différences entre ce que dit Athanase et ce que dit Eusèbe? Est-ce que ça se rejoint? Comment ça se passe?
Bien sûr, puisque, comme je viens de le dire, la manière dont vous racontez l'histoire, c'est ce qui est important, plus que l'événement lui-même. Ironie du sort, la lettre d'Eusèbe de Césarée dont vous parlez nous a été transmise justement parce que Athanase l'a transcrite à la fin de sa propre lettre. Par conséquent, vous la trouverez aussi dans notre petit volume. C'est un coup de maître de la part d'Athanase, parce que en réalité, entre lui et Eusèbe, il y a une grande divergence d'interprétation quant au Concile de Nicée. Mais Athanase a eu l'intelligence stratégique d'intégrer la parole de son adversaire à l'intérieur de sa propre interprétation. Par conséquent, le livre d'Athanase, la lettre d'Athanase, suit plus ou moins le cadre et les idées d'Eusèbe, mais les récupère pour sa propre interprétation. Et sa propre interprétation, je dirais qu'elle tient à une idée simple, une idée profonde, Athanase veut défendre la singularité de Jésus-Christ. Pour lui, il est très important de concevoir que Jésus de Nazareth n'est pas un homme comme les autres. Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, il est lui-même Dieu. Bien qu'il soit exactement comme nous quant à son humanité, il est Fils de Dieu d'une manière totalement différente à la manière dont nous-mêmes, les êtres humains, pouvons être Fils de Dieu. C'est le point, je dirais que c'est le point névralgique de la démonstration d'Athanase. D'ailleurs, sa démonstration commence par cette question. Au fond, qu'est-ce qu'être un fils? Et pour lui, c'est la question primordiale. Comment pouvons-nous comprendre que Jésus est fils d'une manière totalement différente et singulière par rapport à notre manière d'être fils adopté dans le Fils unique de Dieu?
Écoutez, c'est vraiment au capital, je crois, ça ressent tout à fait le débat. Et je voudrais peut-être un mot, on n'a pas le temps de développer ça, mais sur ce débat qu'il y a eu, de commencer à adopter, pour expliciter la foi chrétienne, des termes qui ne se trouvent pas tels quels dans l'Écriture.
Exactement. Et justement, sur ce point, c'est là que se pose la question. L'Écriture dit que nous aussi, les êtres humains, nous sommes fils de Dieu. Nous aussi, les êtres humains, nous appelons Dieu Père. Par conséquent, comment maintenir une différence infinie entre la personne divine de Jésus-Christ et nous-mêmes, personnes humaines, qui sommes fils et filles de Dieu? Et le Concile a décidé que si l'on s'en tenait au vocabulaire utilisé par l'Écriture, on ne s'en sortirait pas. Qu'il fallait une précision qui permette de faire cette distinction entre Jésus, le Fils unique de Dieu, et les êtres humains qui sont fils dans le Fils. Et c'est la raison pour laquelle, selon Athanase, les pères du Concile ont décidé d'introduire un vocabulaire qui venait de la philosophie et qui avait déjà été manié par la théologie dans les siècles précédents, mais qui n'avait pas encore été intégré au magistère de l'Église. Et le mot le plus décisif dans la formule de foi, c'est le mot consubstantiel. Je préfère ne pas le traduire parce que je pense que les pères de l'Église eux-mêmes, les pères du Concile, ont préféré le mettre plus comme un critère de division, de distinction entre la relation qui lie Jésus au Père et la relation qui nous lie nous-mêmes à Dieu, que comme une explication spéculative sur la relation entre le Père et le Fils.
Il va nous rester peu de temps et peut-être c'est bien de nous lire, si vous voulez bien, ce texte de Nicée. Alors, je répète, dans la liturgie chrétienne, en particulier dans l'Église orthodoxe, mais l'Église catholique, je pense, fait la même chose, pratiquement dans tous les offices, et c'est de lire le credo appelé de Nicée-Constantinople. Mais la partie Nicée de ce credo n'est pas complètement la même que ce qui, en fait, a été décidé et rédigé en 325. Alors, si vous voulez bien, le texte de 325.
Exactement. Je pense que les auditeurs vont entendre plusieurs fois ce mot « substance », et vont comprendre que ce que les pères veulent assurer, c'est que Jésus vient de Dieu lui-même, de sa substance même, et non pas de sa volonté ou du néant, comme c'est le cas du reste de la création. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, artisan de toutes choses, les visibles comme les invisibles. Et en le seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Fils unique engendré du Père, c'est-à-dire issu de la substance du Père. Dieu issu de Dieu, lumière issue d'une lumière, vrai Dieu issu d'un vrai Dieu, engendré, non pas fait, consubstantiel au Père, par qui toutes choses sont advenues à l'être, celles qui sont au ciel comme celles qui sont sur la terre, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu et s'est incarné, est devenu homme, a souffert et est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, pour venir juger les vivants et les morts, et dans le Saint-Esprit. Amen.
Alors, on voit bien que c'est plus court de ce qu'on connaît, bien sûr. Il n'y a pas la partie finale qui est due entièrement au Concile de 381, mais évidemment, des petites différences. Alors, pour substance, je pense que c'est le mot grec « ousia », c'est ça?
Exactement, voilà. C'est le mot « ousia ». Et je pense qu'un point important, historique, c'est que au début du IVe siècle, nous n'en sommes pas encore à compter le nombre des substances ou le nombre des hypostases. Ici, il ne s'agit pas de savoir s'il y a une seule substance ou trois substances dans la Trinité. Il s'agit de montrer qu'il existe un lien étroit entre le Fils et le Père, un lien qui se fait au niveau de l'être même, de la ousia. Il ne s'agit pas encore de résoudre la grande question, qui sera celle qui sera résolue à la fin du IVe siècle, de savoir s'il y a une ou plusieurs substances, s'il y a une ou plusieurs hypostases. Ce sera le travail d'un autre grand théologien, Basile de Césarée.
Xavier Morales, merci beaucoup. Malheureusement, nous devons arrêter ici cette conversation. Alors, je rappelle que vous êtes professeur à Santiago du Chili, à l'Université catholique pontificale, mais et que vous êtes aussi avec nous aujourd'hui, mais en direct de Santiago. Alors, je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont vous êtes le traducteur, Athanase d'Alexandrie sous les décrets du Concile de Nicée, source chrétienne numéro 649-2025. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation, François Connac. Prise de son, Benjamin Vignal. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Sol Lae, le rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau.